Et bonsoir à toutes et à tous. Entrons ensemble dans le temps du débat consacré ce samedi au vote par correspondance. Supprimé en 1975, le vote par correspondance pourrait bien faire son retour en France. C'est en effet l'une des propositions du rapport remis par Jean-Louis Debré à Matignon le 13 novembre dernier pour faire face à la crise sanitaire et ne pas reproduire la confusion des dernières municipales lors des prochaines élections départementales et régionales de 2021. Prévues pour mars, celles-ci seront d'ailleurs reportées en juin dans un large consensus. En revanche, l'autre proposition, même si elle est discutée également par l'ancien président du Conseil constitutionnel, réintroduire le vote par correspondance, a suscité une controverse d'une ampleur inattendue et qui a traversé le camp politique à l'image de la majorité. Le président Emmanuel Macron n'a pas dit non, contrairement au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a affirmé une farouche hostilité, quand l'ancien ministre et député de Paris, Mounir Majoubi, s'y montrait lui résolument favorable. L'enjeu est de taille, il dépasse largement la situation exceptionnelle de la crise sanitaire, puisqu'il s'agit de réfléchir aux meilleurs moyens de lutter contre l'abstention qui ne cesse de progresser. Mais une proposition technique permettrait-elle vraiment de pallier ce qui apparaît d'abord comme le fruit de la défiance croissante des Français vis-à-vis des institutions et des élus? Vote par correspondance, fausse bonne idée ou vraie solution? C'est la question du temps du débat ce samedi, une émission à écouter en direct sur France Culture, franceculture.fr et quand vous le souhaitez, en podcast sur l'application de Radio France.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Le 19 décembre prochain, vous serez appelé, vous le savez, à vous rendre aux urnes pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais il se peut que pour une raison professionnelle impérieuse ou pour une raison de santé, vous soyez dans l'impossibilité de vous rendre à votre bureau de vote. C'est précisément pour cela qu'a été institué le vote par correspondance qui intéresse certaines catégories professionnelles bien précises.
Qui peut voter par correspondance? Les grands invalides de guerre et les accidentés du travail pensionnés à 85% au moins, les personnes âgées et les infirmes qui ont un garde-malade, le garde-malade peut aussi voter par correspondance. Tous ceux qui voyagent, représentants, routiers, sportifs, comédiens ou ecclésiastiques, enfin les militaires de garde, les cheminots, aviateurs et mariniers, les infirmiers, cette liste bien sûr n'est pas exhaustive.
Pour les élections, là, faut le vote par correspondance,
surtout,
je suis du Pas-de-Calais.
Fournir la preuve que vous êtes obligé.
C'est un petit problème aussi, faut que j'aille à la gendarmerie, à la mairie.
En recevant votre lettre, la mairie va vérifier les documents.
Les incidents hier à Ajaccio lors du dépouillement des votes par correspondance de l'élection municipale complémentaire. Des contestations éclatèrent et un des adjoints au maire dut s'asseoir sur l'urne pour la protéger. Il fit appel à la police et il y eut une échauffourée.
Le vote par correspondance est supprimé. Le vote par procuration le remplace.
Et voilà, les archives de 1975 et un peu avant, sous le montage évidemment de Vanessa Nadjar, la réalisatrice de l'émission. On va discuter de ce sujet, du vote par correspondance qui a existé en France, pour ceux qui l'auraient oublié, puisqu'on en a beaucoup parlé à l'occasion notamment des élections présidentielles américaines récentes. Et on en parle avec nos trois invités. D'abord, Yaël Braun-Pivet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée La République En Marche de la 5e circonscription des Yvelines et vous êtes la présidente de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, c'est long, à l'Assemblée nationale. Et c'est justement cette commission qui a la compétence en matière de droit électoral. Et donc, on va en discuter avec vous. On est également ici en studio à Paris avec vous, Céline Braconnier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, vous êtes professeure des universités en sciences politiques. Et vous êtes justement spécialiste des questions de participation électorale. Parmi les ouvrages qu'on peut citer, les inaudibles sociologies politiques des précaires, c'était avec Nona Meyer aux presses de Sciences Po en 2015. Et enfin, également par téléphone, Romain Rambeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes, auteur de plusieurs ouvrages consacrés au droit électoral, dont notamment « Droit des élections et des référendums politiques ». Vous animez aussi le blog du droit électoral et vous avez déposé une pétition à l'Assemblée nationale pour demander justement de pouvoir ouvrir le droit au vote par correspondance. Et justement, j'aimerais commencer avec vous, Romain Rambeau, puisque vous avez beaucoup travaillé la question, pour vous demander de nous faire malgré tout un petit rappel historique et juridique. De quoi parle-t-on quand on parle de vote par correspondance? Est-ce que on parle du vote par correspondance, celle qui s'est montrée aux États-Unis cette année? Qu'est-ce que c'était en 1975? Bref, est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur ce que c'est que ce vote par correspondance?
Oui, alors là, quand on va parler de vote par correspondance maintenant, je pense qu'on va essentiellement parler du vote par correspondance papier, par la poste, et moins probablement, peut-être qu'on en reparlera aussi, mais moins, en tout cas c'est moins dans le débat, du vote électronique. Alors par contre, s'agissant du vote par correspondance à distance, il y a beaucoup de systèmes différents, et je pense que c'est un point qu'il faut bien comprendre. Et le vote par correspondance qu'on pourrait mettre en place en France, par exemple, pourrait ne rien avoir avec celui qui est en place aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de systèmes différents selon les pays. Alors sur le plan historique, les reportages de tout à l'heure l'ont très bien montré, hein, de 1946 à 1975, il y a eu un système de vote par correspondance en France qui permettait de faire voter les infirmes, les personnes qui devaient se déplacer pour des raisons professionnelles, les militaires. Et ce système a été supprimé en 1975, notamment à cause de problèmes de fraude. Donc il y a une sorte de traumatisme corse, en quelque sorte, en France, puisque ce sont essentiellement des fraudes en Corse qui ont conduit à la disparition de ce système. Ceci étant, il faut noter que le système antérieur à 1975 était très archaïque et ne protégeait guère des fraudes et était très différent de ce qui se fait aujourd'hui en matière de vote par correspondance.
Yael Braun-Pivet, je le disais, hein, le rapport Debré évoque ce vote par correspondance comme une des solutions possibles pour la discuter et montrer à quel point, en tout cas selon Jean-Louis Debré et sa commission, ça pose un certain nombre de difficultés. Quand vous entendez vote par correspondance, vous entendez quoi exactement? À quelle forme ça pourrait prendre ou pas d'ailleurs dans votre esprit?
Alors il y a vote par correspondance et il y a vote à distance, c'est-à-dire que vote par correspondance, pour moi, on est dans le format papier, une enveloppe, justification d'identité, et j'envoie par la poste mon bulletin de vote. Et puis on pourrait imaginer un vote à distance, donc un vote électronique sécurisé qui serait de manière instantanée, ce qui présenterait un certain nombre d'avantages par rapport à la forme papier. Mais le rapport de Debré s'inscrit dans une temporalité sur les prochaines élections, et en fait il y a deux sujets. Comment favoriser la participation aux élections en période de crise sanitaire, et comment favoriser la participation aux élections d'une manière générale, ce qui me semble être un débat beaucoup plus large qu'un débat purement technique pour les prochaines échéances électorales.
Eh ben, on va essayer justement d'avancer d'abord sur les prochaines élections, puis poser le débat plus large. Mais Céline Braconnier, on a parlé du vote électronique, du vote par correspondance, donc par le biais d'envois postaux. Mais ça pose aussi la question du vote anticipé. Vous, votre définition dans votre esprit, quand on vous dit vote par correspondance, ça recouvre tout ça?
Ah ben, ça peut recouvrir différentes formes. Elles ont pour point commun, et c'est ce qui m'intéresse dans ces propositions, d'exonérer les électeurs d'un déplacement géographique et donc de faciliter la participation. On a notamment une situation très particulière en France qui est liée à notre procédure électorale, qui impose une démarche volontaire pour s'inscrire, qui laisse de côté un nombre non négligeable de personnes, et notamment de personnes qui ne sont pas inscrites là où ils résident au moment où le vote a lieu. On estime que ces personnes, elles sont 7 200 000 aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les mal inscrits. Et les mal inscrits, pour pouvoir voter, doivent donc se déplacer, parfois loin de chez eux. Et donc ce sont des populations, des étudiants, des cadres qui ont déménagé, qui ont oublié de se réinscrire ou qui mettent du temps à se réinscrire, qui ne votent pas tout simplement parce qu'ils sautent trop loin pour le faire et qui, évidemment, pourraient le faire beaucoup plus facilement s'il existait une manière de voter à distance.
Alors là, vous êtes déjà dans la deuxième partie de l'émission presque, Céline Braconnier. Si on parle du court terme, de ces élections qui arrivent, les régionales et les départementales, est-ce que ça vous paraît réaliste ou en tout cas souhaitable de penser dès maintenant ou de se dire qu'on peut mettre en place ce vote par correspondance à court terme, puisque ce sera en juin, ces élections finalement?
Oui, mais écoutez, alors ça, l'opérationnalité dans un temps un peu contraint, c'est pas à moi de l'établir. Ce qui est sûr, c'est que le calendrier de report en juin laisse un petit peu de temps pour envisager des solutions simples. Et le vote par correspondance sur papier n'est pas une procédure extrêmement complexe. C'est beaucoup plus long à mettre en place de façon sécurisée un vote à distance de manière électronique. Mais le vote par correspondance sous une forme papier qui a existé dans le temps, qui a été mis en œuvre il n'y a pas si longtemps en France, hein, sur une population très particulière en 2019, qui était celle des détenus.
Des prisons, oui.
Eh bien, c'est quelque chose qu'on sait à peu près faire, qui évidemment nécessite de l'organisation, voilà, une mobilisation très importante, mais qui vaut la peine d'être posé, en tout cas.
Yael Braun-Pivet, on peut mettre en place ce système à court terme. J'ai entendu, tout le monde a entendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dire plutôt non, on ne sait pas faire.
Alors c'est compliqué parce qu'effectivement on a des questions de sécurisation des votes, d'organisation des scrutins. On a une difficulté qui réside dans notre système électoral à deux tours, avec un deuxième tour extrêmement rapproché du premier, qui peut entraîner une difficulté supplémentaire par rapport à la mise en place du vote par correspondance. Mais au-delà de ces questions techniques et financières, parce que ça a un coût également. Mais au-delà de ces questions, à quelques mois d'un scrutin, je suis pour toucher aux modalités de vote d'une main tremblante. Je considère que l'enjeu est un enjeu démocratique tellement fort qu'il ne faut pas bouger plusieurs curseurs. On bouge déjà les dates, on bouge des curseurs au niveau du nombre de procurations, de la possibilité, de la facilitation d'établir des procurations. Donc moi, mon opinion en tant que présidente de commission des lois, c'est soyons extrêmement précautionneux, ne bougeons pas trop de curseurs, parce que nous pourrions avoir ensuite des accusations de vouloir un peu tripatouiller l'élection à l'aune de la crise sanitaire. Et je crois qu'il ne faut surtout pas aller dans cette direction-là.
Alors, on entend, Romain Rambeau, les préventions de Yael Braun-Pivet, qui sont des préventions presque politiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une opposition de droit hein, à ce changement? Il y a une loi en 2019, dite de clarification du droit électoral, dont les décrets d'application, d'ailleurs, il me semble, viennent de paraître au Journal officiel, et dont l'une des dispositions stipule bien qu'on ne peut changer ni les circonscriptions, ni le régime électoral dans l'année qui précède un scrutin. Donc, est-ce que ça, ce serait pas de toute façon une disposition législative, enfin, une loi qui empêcherait tout simplement de mettre en place à court terme ce vote par correspondance, Romain Rambeau?
Alors pas du tout, parce que cette disposition législative à laquelle vous faites référence et qui existe en effet a un rang législatif, c'est-à-dire qu'elle peut être défaite par une autre loi qui a la même valeur juridique, et d'ailleurs les parlementaires étaient très conscients du fait qu'il ne s'agit que d'une loi et donc on peut la défaire également. Et je dirais que sur ce point, les standards internationaux, il est vrai, préconisent ce qu'on appelle la stabilité du droit électoral, donc le fait de ne pas modifier de façon trop approfondie les modalités de vote trop peu de temps avant l'élection. Ceci étant, les standards internationaux font preuve de flexibilité vis-à-vis de cette règle de stabilité du droit électoral à cause de la crise de la Covid, parce qu'il faut bien comprendre que la crise de la Covid pose un problème en termes d'abstention qui en France a été colossal. Hein. La France est, je crois, le troisième pire pays en matière de chute de l'abstention par rapport à l'abstention moyenne au mois de mars dernier. Donc les standards internationaux nous autorisent à faire preuve de flexibilité vis-à-vis de cela. Et je dois dire que quand on compare la France de ce point de vue-là et les réflexes des pouvoirs publics français visant à ne pas adapter le droit électoral, ça tranche beaucoup avec les expériences étrangères et énormément de pays, hein, de très très grandes démocraties, qui ont réussi à adapter leur droit électoral à la Covid, d'ailleurs pas seulement sur les modalités de vote, mais aussi sur les règles de campagne électorale, et qui ont réussi, avec un grand, grand succès, leurs élections. Ça a été le cas en Allemagne en mars 2020, ça a été le cas de la Suisse, ça a également été le cas de la Pologne. Et pour répondre à votre question, la Pologne a mis en place un système de vote par correspondance en 3 mois. Alors il y a eu des péripéties en Pologne, il y a eu des discussions sur le vote des Polonais de l'étranger, mais pas tellement sur le vote par correspondance sur demande des Polonais pour l'élection présidentielle en Pologne. Donc ils l'ont fait en 3 mois et la participation a augmenté de 15% en Pologne. C'est évidemment le cas des États-Unis. On sait très bien que l'élection présidentielle américaine a été un succès immense, notamment grâce au vote par correspondance et au vote anticipé. Et ce sera le cas en Écosse, puisque en Écosse, en mai prochain, il y aura des élections qui vont être organisées, notamment grâce au vote anticipé et au vote par correspondance, puisque le vote par correspondance existe au Royaume-Uni depuis le début des années 2000. Et donc, ce sont des systèmes qui peuvent être mis en place donc dans un délai relativement court, comme l'a indiqué Céline Braconnier tout à l'heure, et qui pourraient permettre effectivement de revitaliser la démocratie française, y compris en période de Covid. Et j'ajoute sur ce point que il faut, de ce point de vue-là, espérer le vaccin. Parce que si la Covid est encore là pendant l'élection présidentielle et qu'on doit se poser ces questions-là pendant les élections présidentielles, ce sera encore plus problématique.
Espérons qu'on ait le temps de se poser la question avant, Romain Rambaud. En tout cas, merci pour ce tour d'Europe et même ce tour du monde du vote par anticipation, enfin de ce vote par correspondance. Et revenons, si vous le voulez bien, en France, où le débat, je le disais, a pris la semaine dernière. Petit florilège des points de vue, comme ça on va pouvoir discuter un petit peu des arguments.
Une abstention record depuis 1977, et donc le vote par correspondance est un des moyens.
Je sais que le vote par numérique est souvent un sujet d'inquiétude parce qu'on a peur des manipulations, mais je rappelle que nous avions dans le code électoral des dispositions pour permettre le vote par correspondance, que nous pouvons les rétablir.
Pourrons-nous compter sur vous pour ouvrir sans délai le chantier du vote à distance?
Et donc c'est pour des raisons de sécurité et de sincérité du vote que a été mis en place le vote par procuration qui est vérifié par un officier de police judiciaire.
On voit comment ça se passe aux États-Unis.
Permettez-moi de penser malgré tout, et sans porter de jugement, monsieur le ministre des Affaires étrangères, sur le scrutin américain, que le système électoral français fonctionne.
Si les conditions sanitaires le justifient, moi je préfère des élections qui aient lieu avec un vote par correspondance plutôt qu'il n'y ait pas d'élection et pas de respiration démocratique.
Si vous avez changé d'avis, vous pouvez toujours venir voter en présentiel parce que les votes par correspondance ne sont pris en compte qu'à la fin des opérations de vote.
Il y a deux tours aux élections. Et quand vous avez des instruments électoraux, c'est-à-dire vos bulletins de vote et les professions de voix qui arrivent le jeudi ou le vendredi, je ne sais pas comment vous allez faire pour voter et faire en sorte que tout ça soit dans les bureaux de vote le dimanche.
Vu qu'effectivement, des cas de fraude peuvent être relevés, et nous avons fait le choix de l'isoloir, de l'urne et des préaux d'école pour caricaturer.
C'est que j'ai pas envie que les élections soient otages de centres de tri qui se mettraient en grève.
Totalement hostile. Parce que c'est le lieu de toutes les pressions familiales, communautaire et municipal, et c'est le lieu de toutes les fraudes.
Si on veut altérer la sincérité du scrutin, on s'y prendrait pas mieux.
Je souhaite pour ma part qu'on puisse continuer à voter librement dans un isoloir.
Voilà, je pense qu'on a oublié à peu près aucun des arguments de ce débat. Yaël Braun-Pivet, peut-être qu'on peut commencer par celui qu'on entend le plus souvent, celui de la sincérité, de la fraude. On a entendu Gérald Darmanin, et ça va même plus loin. Il me semble que c'est le député Morin qu'on entendait, Hervé Morin, sur dans ce montage, qui disait qu'il ne voulait pas être otage d'éventuelles grèves des centres de tri, donc il ne fait pas confiance même à la Poste pour assurer la continuité ou la possibilité de ce vote. Vous, on l'a entendu, on l'a compris, hein, vous êtes assez réticente à ce vote par correspondance. Par correspondance, cet argument de la fraude, il vous paraît être un argument massu, l'argument premier aujourd'hui ?
Alors, le premier argument, encore une fois, sur des élections qui vont se dérouler dans quelques mois, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a aucun consensus politique sur le sujet.
Donc, et qu'il y a
une multitude de questions qui se posent. Les questions de la fraude sont essentielles. On voit bien que chaque élection peut donner lieu à des manipulations. Alors, pas forcément les élections locales, mais on voit bien que les élections à portée nationale peuvent être hackés ou manipulés par des puissances étrangères ou des groupes de pression. Donc il y a cette problématique de fraude qui est, à mon sens, quelque chose à prendre en compte de façon majeure. Pour moi, l'argument qui me semble le plus pertinent, c'est la concomitance des deux tours. On a deux tours qui sont extrêmement proches, avec dans notre système électoral des questions de fusion de listes qui peuvent intervenir jusqu'au mardi soir précédent le deuxième tour. Nous avons souvent des débats électoraux qui interviennent le mercredi ou le jeudi précédant le vote, et je ne vois pas comment un vote par correspondance, qui est par nature un vote qui entraîne des délais d'acheminement, de réalisation, de dépouillement, etc., pourrait s'accommoder de notre système électoral. Moi, par principe, je ne suis pas contre le vote par correspondance. Je crois que il ne faut pas se méprendre. Tout système qui nous permettrait d'avoir plus de participation aux élections est quelque chose qu'il faut regarder et adopter. Moi, en tant que femme politique, j'ai envie que les électeurs aillent aux urnes et qu'ils y aillent par voie électronique, par correspondance, avec des procurations, en présentiel, me convient très bien, du moment qu'ils vont aux urnes. Mais en revanche, il faut étudier ça de façon non précipitée, extrêmement fondée, pesée, étudiée, approfondie, parce qu'il s'agit de notre démocratie, et on ne rigole pas, on ne joue pas avec notre démocratie, et moi je n'organise pas des changements de modalité de vote en un temps éclair, compte tenu de l'ensemble de ces éléments.
Céline Braconnier, sur les arguments, hein, notamment celui de la fraude, ou celui que vient d'évoquer Yael Braun-Pivet, qui est important, la question de mode de scrutin, des élections à deux tours, et avec ce que ça entraîne, de fusion de listes, etc.
Bien entendu, mais Romain Rambaud a rappelé aussi que d'autres pays, d'autres grandes démocraties pas si lointaines, ont réussi à s'adapter en très peu de temps. Donc, pour une élection en juin, ça semble quand même étonnant qu'on puisse ne pas envisager une adaptation suffisante pour sécuriser une élection de ce type-là par correspondance, en tout cas si elle est organisée sur un mode papier. Hein. Je crois que Madame Braun-Pivet a raison de dissocier, je pense, les deux temporalités. Il y a la question de principe, elle n'a pas l'air foncièrement opposée, hein, puisque c'est difficile de toute façon de soutenir l'idée que le vote par correspondance n'est pas un moyen de faciliter la participation et donc de diminuer l'abstention. Toutes les études scientifiques montrent cela. Donc
on a des cas concrets. Hein.
Oui.
Vous parliez par exemple tout à l'heure de la question du vote des prisonniers. C'était des votes par correspondance ou
Non. C'était un vote par correspondance sous pli cacheté qui a été organisé au cours de la semaine précédant le dépouillement. Et le dépouillement a eu lieu en même temps que celui qui avait lieu dans toute la France le dimanche. Et le taux de participation, accrochez-vous, a été de 88%. Pour les détenus qui constituent une population habituellement très peu mobilisée, évidemment, à la fois du fait des conditions dans lesquelles ils sont, mais aussi parce que ils sont majoritairement issus de milieux très éloignés des institutions. Donc, on peut pas tirer évidemment de leçons au-delà du raisonnable à partir de cet exemple-là, mais il montre quand même que le fait de supprimer l'obstacle de la distance, est bien produit à certaines conditions de la participation. Et j'ai envie de vous dire, sans regarder même les pays étrangers, si on regarde ce qui se fait en France en ce moment, parce que à l'échelle nationale, on a du mal à s'adapter, mais il y a bien des institutions dans lesquelles la démocratie continue de fonctionner. On est bien obligé, par exemple, dans les universités, de continuer à élire des présidents, élire des élus étudiants, des élus, des représentants des communautés universitaires. La mise en place du vote à distance, qu'on est obligé de mettre en place pour pas que la démocratie s'arrête, montre que les taux de participation, par exemple des étudiants, s'accroissent de 10 à 15 points. Donc ça rejoint les constats que l'on fait sur l'accroissement de la participation dans les pays étrangers pour des élections politiques nationales. Celle des enseignants a été multipliée par 2 dans la plupart des cas que l'on observe. Donc où que l'on regarde, le vote par correspondance, le vote à distance, en ce moment, dans ce contexte-là, produit une hausse de la participation. Et donc il y a la question de cette modalité-là, qui évidemment est capable de revitaliser en partie la démocratie sans être suffisante, et puis il y a la question de l'opérationnalité.
Romain Rambaud, dans les arguments énoncés par Yael Braun-Pivet, il y a donc cette question de l'élection à deux tours, hein, on l'a entendu, mais aussi la possibilité de voir le niveau d'information des électeurs évoluer au cours de la campagne. C'est-à-dire que on peut avoir envie de mettre un bulletin à un instant T et puis se rendre compte parce que il y a eu un débat, il s'est passé un événement, finalement on aurait bien changé son vote. C'est un argument important quand même contre le vote par correspondance, qui est nécessairement un vote anticipé.
Alors, très honnêtement, je pense qu'il y a énormément d'arguments contre le vote par correspondance qui ne tiennent pas ou qui tiennent pas très bien. Si vous me permettez de les reprendre, alors tout d'abord, on ne part pas de rien puisque le vote par correspondance existe, comme cela a été indiqué, donc depuis peu de temps dans les prisons, même si c'est un vote par correspondance particulier, mais il y a aussi les Français de l'étranger qui votent par correspondance, donc on a une certaine, enfin qui peuvent voter par correspondance, donc on a une certaine expérience sur le sujet. La question du deuxième tour. Elle peut être réglée facilement. Il suffit de décaler d'une semaine le deuxième tour des élections départementales et régionales, de faire deux semaines entre les deux tours, et le problème est réglé. Et une nouvelle fois, une simple loi permettrait de faire ça, d'autant qu'il y a aussi d'autres considérations que le vote par correspondance qui peuvent plaider en cela. Il y a aussi les problématiques de fusion de listes, ça a été dit, de campagne électorale d'entre deux tours, qui vont être compliquées dans le contexte qu'on connaît. Donc la possibilité de décaler le second tour est tout à fait possible. Pour répondre à votre question très précisément, mais je vais revenir, si vous voulez bien, sur les autres arguments plus tard, sur la question de savoir si on ne peut pas... changer son vote une fois qu'on a envoyé son bulletin. Une nouvelle fois, tous les systèmes existent dans le monde. Et par exemple, en Australie, il est tout à fait possible de venir voter en présence, alors même que vous avez auparavant envoyé un bulletin de vote, et votre vote présentiel annule en quelque sorte le vote par correspondance que vous aviez fait auparavant. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'une proposition de loi a été déposée par le sénateur Éric Kerrouche, qui répond à ces différents éléments, puisqu'elle prévoit notamment le report du second tour d'une semaine, et le fait que l'électeur pourra venir voter en présentiel s'il le souhaite, pour annuler entre guillemets son bulletin de vote par correspondance s'il change d'avis donc sur ce sujet. S'agissant des autres arguments, bon, l'argument du temps est clair. Je le réfute d'abord parce que on a vu que la Pologne avait réussi à le faire en un temps plus court que celui dont nous en avons disposé. Et par ailleurs, le problème, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'on savait très bien depuis mars 2020 et depuis juin 2020 qu'on allait avoir un problème pour mars 2021. C'est une surprise pour personne. Donc il était tout à fait possible d'anticiper et de réfléchir à la mise en place d'un dispositif de cette nature en amont et pas seulement au mois de novembre 2020. Juste un dernier point, parce que je voudrais pas être trop long, mais moi ce qui m'étonne une nouvelle fois, si vous me permettez de me désaxer par rapport à la situation française, pour regarder les standards internationaux et pour regarder ce qui se fait dans le monde, c'est qu'un des principaux arguments qu'on utilise en France, c'est de dire on n'a pas besoin du vote par correspondance, puisqu'on a le vote par procuration, et le vote par procuration, c'est très bien. Et ça, c'est très très étonnant quand vous faites du droit comparé. Parce que quand vous faites du droit comparé, quand vous étudiez les standards internationaux, vous vous rendez compte que la plupart des standards internationaux sont en défaveur du vote par procuration et qu'ils sont plutôt favorables au vote par correspondance, parce qu'on sait de façon certaine au niveau des fraudes, et c'est beaucoup moins clair pour le vote par correspondance, que le vote par procuration peut entraîner des problèmes de vote familiaux, effectivement, et entraîne très régulièrement des risques de fraude, et notamment depuis les dernières législations, puisqu'aujourd'hui, on peut voter par procuration sans le justifier, et on veut donner deux procurations par personne. Donc les problématiques de fraude qu'on évoque se posent peut-être de façon encore plus accrue avec le vote par procuration qu'on défend, et moins pour s'agissant du vote par correspondance que l'on réfute, et c'est très difficile à comprendre quand on observe tout cela du point de vue des standards internationaux et du droit comparé.
Yael Braun-Pivet, sur ce que vient de dire à l'instant Romain Rambaud, et sur les problématiques que pose le vote par procuration, parce qu'on a entendu Gérald Darmanin et aussi Valérie Pécresse dire le vote par correspondance, c'est la porte ouverte aux pressions, au vote communautaire.
Alors c'est effectivement un des dangers qui est pointé, qu'effectivement le vote par correspondance, c'est ce risque-là.
Mais qui touche aussi le vote par procuration, manifestement.
Alors, qui peut toucher tout vote à distance, en fait, parce qu'il le toucherait également sur du vote électronique. C'est toujours la même difficulté. C'est vrai que concernant la liberté de vote, elle ne sera garantie que lorsque vous êtes dans un isoloir, seul dans cet isoloir avec le rideau fermé, et que nul ne peut voir quel est le bulletin que vous mettez dans l'enveloppe. Et ça, l'isoloir, c'est la protection maximale contre les pressions. Moi, j'entends que votre invité indique que le vote par procuration devrait peut-être être moins encouragé et favoriser le vote par correspondance. Vous voyez bien que là, on bouge plusieurs curseurs sur les modalités de vote. Encore une fois, moi, je ne suis vraiment pas hostile à cette réflexion-là, et il faut trouver tous les voies et moyens pour amener les électeurs.
Mais a priori, vous seriez plutôt pour...
Ne touchons pas tous les curseurs. Moi, le vote par procuration, on l'a facilité. Et c'était, nous, notre voie d'adaptation. Nous avons choisi, lorsque s'est posée la question de la crise sanitaire et des élections municipales, nous avons choisi de faciliter le vote par procuration avec cette double procuration, avec la possibilité pour les OPJ de se déplacer pour aller recueillir les procurations. Donc nous avons choisi d'aménager une modalité de vote plutôt que de révolutionner et de vraiment modifier profondément profondément notre système de vote. Il me semble encore une fois qu'en période de crise sanitaire, on peut citer des exemples étrangers. Moi, je ne souhaite pas m'en inspirer. Je pense que en France, aujourd'hui, en période de crise sanitaire, il faut toucher raisonnablement nos modalités de vote, mais en revanche, engageons un travail avec les universitaires, avec les partis politiques, pour essayer d'avoir une vision beaucoup plus globale que celle-là, que de toucher cette petite modalité-là.
Juste un mot, Yael Braun-Pivet, puisque je le rappelle, vous êtes députée La République En Marche, présidente de la commission des lois, et il y avait aussi, dans l'intervention de Romain Rambaud, cette idée qu'il y avait peut-être un peu d'improvisation, en tout cas une réaction dans l'urgence, quand on aurait pu anticiper. Moi, j'entends dans ce que vous me dites que vous récusez un peu ça. Vous dites non, on a fait le choix du vote par procuration plutôt que des autres modalités qui s'offraient à nous.
Exactement. On a, dans l'urgence, au mois de mars, décidé de faire ces ajustements dans les modalités de procuration, etc. Donc ça, c'était dans l'urgence. Depuis, nous avons poursuivi nos travaux, mais il est vrai que nous avons renoncé, et c'est le sens de la disposition que vous avez citée tout à l'heure, cette disposition législative que nous avons adoptée, nous renonçons à modifier de façon profonde le scrutin avant une échéance électorale. Il me semble que c'est de bonne hygiène démocratique.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Il est 18h41, vous écoutez France Culture et donc on parle du vote par correspondance, fausse bonne idée ou vraie solution, mais on parle aussi des autres façons de rénover un petit peu la pratique démocratique et de lutter contre l'abstention. On le fait avec Yael Braun-Pivet, députée LREM qu'on vient d'entendre et présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, avec Romain Rambaud qui est professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes et qui est spécialiste du droit électoral, et avec vous Céline Braconnier, vous êtes la directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous travaillez justement, vous, sur la question de la participation électorale. Peut-être qu'on peut ouvrir un petit peu pour la deuxième partie de cette émission, enfin les 20 minutes qui nous restent, si vous le voulez bien. En quoi, selon vous, aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous pourriez nous faire un petit portrait robot des abstentionnistes aujourd'hui, et en quoi les nouvelles modalités de vote qu'on évoque depuis tout à l'heure pourraient permettre de lutter, selon vous, contre l'abstention, quand on sait que, en tout cas, dans l'idée générale, c'est surtout une forme de défiance vis-à-vis de la politique qui vient tout de suite à l'esprit pour expliquer l'abstention aujourd'hui.
Oui, bien sûr, il y a des raisons politiques à l'abstention, bien évidemment, des raisons liées à l'offre électorale, à la défiance de plus en plus grande des citoyens vis-à-vis des professionnels de la politique, qui les maintient éloignés des urnes. Mais tout montre qu'il y a aussi des déterminants sociaux de l'abstention qui restent très forts, et déterminants démographiques. En fait, la catégorie de la population qui vote le moins et de moins en moins, c'est celle des jeunes. Hein, les 18-35 ans, en gros, ne participent vraiment massivement qu'à l'élection présidentielle en France et s'abstiennent très massivement pour les autres élections. On a d'autres déterminants sociaux qui interviennent, le niveau d'études, la fragilité économique, la stabilité, l'isolement. Hein, les personnes les plus isolées votent moins que d'autres. Donc un cumul de facteurs qui explique que, quel que soit le scrutin, les abstentionnistes ont les mêmes caractéristiques, ceux qui restent le plus éloignés des urnes. Et ce sont le niveau de politisation surtout est très important et il est socialement déterminé, il est lié au niveau d'études. Il se trouve que moins on est politisé, plus se déplacer pour voter est compliqué. Le moindre obstacle au vote va devenir rédhibitoire. Et que dans cette situation, le vote par correspondance, comme le vote à distance d'ailleurs pour les jeunes, peut être un élément de facilitation. Évidemment que ces processus ou ces modifications du processus électoral ne suffiront pas à redonner confiance aux citoyens, mais en facilitant la participation, ils permettront à ceux qui sont les plus éloignés des urnes de se déplacer, de participer plus facilement et de réagir à une campagne électorale de qualité. Donc, pour améliorer la participation, même si ça ne sera pas évidemment suffisant, la mise en place du vote par correspondance aurait notamment pour effet de neutraliser les problèmes liés à l'inscription en France.
Alors on va revenir sur ces problèmes liés à l'inscription, mais Romain Rambaud, je voulais vous entendre sur ce que vient de dire Céline Braconnier, parce que je rappelle, vous êtes professeur de droit public, vous allez forcément me dire oui, mais est-ce que toucher tout simplement aux modalités de vote, donc au droit, ça suffit? Alors ça suffit, vous allez peut-être pas me dire oui, mais est-ce que c'est, en tout cas, ça permettrait de lutter efficacement, selon vous, contre une partie de l'abstentionnisme?
Alors je rejoins tout à fait ce que vient de dire Céline Braconnier. Évidemment, d'abord, la participation répond à des enjeux politiques, c'est une évidence. Ceci étant, les modalités de vote peuvent permettre d'améliorer les choses. On parlait tout à l'heure du vote par procuration en disant que ça avait été la modalité choisie par la France pour voter malgré tout. Ça a été un échec,
bien sûr.
Tout simplement. C'est-à-dire que la participation au mois de juin 2020 est catastrophique. Donc la procuration n'a pas fonctionné pour augmenter la participation. Et donc effectivement, le fonctionnement d'autres dispositifs comme le vote par correspondance peut faciliter les choses. C'est le cas aussi pour le vote anticipé, hein, qui a par exemple été utilisé largement en Corée du Sud et aux États-Unis. Et on se rend compte que les gens sont friands de modalités alternatives de vote. En Corée du Sud, 25% du corps électoral a voté par anticipation. Aux États-Unis, le vote par anticipé, le vote par correspondance, c'est absolument énorme, comme chacun sait. En Allemagne, c'est 28% de la population qui vote par correspondance. Et au Royaume-Uni, qui dispose de systèmes depuis les années 2000 seulement, aujourd'hui, c'est 18% du corps électoral qui vote par correspondance au Royaume-Uni. Et c'est en augmentation absolument constante. Donc la réalité, c'est que les gens, effectivement, sont friands d'une évolution des modalités de vote. Et d'ailleurs, des sondages sont parus récemment qui indiquaient qu'effectivement, les Français étaient favorables à une évolution des modalités de vote. Et je pense que cette question de l'adaptation de nos modalités de vote et l'adaptation de notre démocratie, c'est une question de fond en elle-même. C'est-à-dire qu'être en permanence dans des positions « conservatrices », entre guillemets, ce n'est pas donner l'image d'une démocratie très vivante, très dynamique. Et quand on entend nous dire que, par exemple, le vote par correspondance favoriserait les votes communautaristes ou les votes par fraude communautariste, ça indique quand même des préjugés parfois qui montrent qu'on ne fait pas forcément confiance dans la démocratie. Depuis une semaine, deux semaines, je cherche moi désespérément des fraudes communautaristes. Je les cherche dans tous les pays. Je les ai cherchées en Allemagne. Je les ai cherchées en Suisse. Je les ai cherchées un petit peu partout en Europe. J'ai failli les trouver en Angleterre. Alors puisqu'en Angleterre, il y a eu des fraudes au vote par correspondance au milieu des années 2000 sur des communautés donc du Bangladesh et du Pakistan. Mais en fait, il s'est avéré après étude que c'était les partis politiques eux-mêmes qui avaient organisé ces fraudes au vote par correspondance. Donc ce n'était même pas des votes communautaristes. Donc effectivement, on peut se demander quand même si cette façon de voir les choses, quand on nous explique qu'il faut tout le temps qu'on vote le dimanche, qu'il faut forcément qu'on passe par l'isoloir, ce sont pas des représentations qui relèvent de la psychologie sociale, mais qui montrent aussi que parfois les gouvernants n'ont pas forcément confiance dans la capacité des personnes à investir vraiment leur démocratie, y compris dans le bon sens. Et je ne parle même pas ici, par exemple, de la problématique du référendum, dont on sait qu'elle devrait être pourtant fondamentale, et on a bien vu malheureusement avec la Convention citoyenne pour le climat que ça n'a pas donné lieu à référendum, alors probablement
n'ouvrez pas un autre débat, Romain Rambaud, s'il nous reste à peine 10 minutes. Céline Braconnier, vous voulez réagir rapidement avant de donner la parole à Yann Braud-Pivet, évidemment.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Romain Rambaud, et d'autant plus que moi je m'inscris un petit peu en faux avec l'idée que le vote par correspondance introduirait du vote collectif ou des pressions, et que le vote tel qu'il existe aujourd'hui serait une garantie contre cette caractéristique. En réalité, on a le mythe bien incarné par l'isoloir, en fait, hein, par l'objet isoloir d'un vote qui serait individuel et fait en conscience par une raison pure, voilà, sans influence aucune. En réalité, on sait bien que ça se passe pas comme ça. La pratique, certes, est individuelle, mais la construction du vote se fait collectivement. On vote dans un cadre qui est celui de sa famille, avec des discussions qu'on a en famille. On va voter la plupart du temps en famille, d'ailleurs, hein, pour une élection présidentielle. On vote avec ses amis, on en discute. Il faut pas avoir peur de dire que le vote est une pratique collective. Donc, évidemment, la frontière, elle est parfois difficile à établir entre des discussions qui sont le sel de la démocratie, hein, et puis voilà, des formes de pression ou d'influence dont il faut se méfier, mais qui ne sont absolument pas liées à un type de vote particulier, à une modalité de vote particulier.
Yael Braun-Pivet, conservatrice, la France vis-à-vis de sa façon de voter, c'est un peu le reproche qu'on entend à l'instant.
C'est ce que j'entends, mais je trouve que ça n'est pas exact. Nous sommes, et encore une fois, très ouverts à tout débat et toute idée sur comment ramener les électeurs aux urnes. Moi, je rejoins tout à fait Céline Braconnier quand elle dit qu'une des problématiques majeures, c'est ces 7,2 millions de Français qui sont mal inscrits. Je crois que là, il faut vraiment qu'on travaille sur cela pour que les personnes soient inscrites au bon endroit pour pouvoir voter, notamment pour tout ce qui concerne les élections locales, et qu'elles n'aient pas à se déplacer. C'est une problématique majeure. Mais pour moi, en tant que femme politique, le questionnement premier, c'est comment redonner du sens au vote, comment faire en sorte que nos compatriotes aient envie d'aller voter parce qu'ils y voient de l'intérêt, parce qu'ils ont le sentiment que leur vote compte, qu'il est pris en compte et que les hommes et les femmes politiques pour qui ils vont voter remplissent leurs promesses, leur rendent des comptes, ont une attitude exemplaire, etc. Donc on a un vrai enjeu en France aujourd'hui de défiance des Français envers la classe politique, qui est une des raisons également pour lesquelles ils ne vont pas aux urnes. Et quelles que soient finalement les solutions techniques que l'on trouve, quelles qu'en soient les modalités du vote, nous ne récupérerons pas ces citoyens perdus si nous ne travaillons pas sur l'utilité du vote, sur le sens du vote, sur le rapport entre les hommes et les femmes politiques et le citoyen.
Un mot tout de même sur les modalités.
Effectivement.
Non, je voulais juste dire encore un mot sur les modalités, Yael Braun-Pivet, parce que il y a une proposition de loi récemment, portée notamment par la députée Delphine Batho, qui proposait certes d'abaisser le droit de vote à 16 ans, mais qui proposait aussi l'inscription obligatoire sur les listes. Les impôts nous retrouvent très bien quand on déménage. Pourquoi est-ce que les listes électorales ne nous suivent pas quand on déménage, par exemple, Yael Braun-Pivet?
Mais je suis d'accord sur ce questionnement. Je l'ai eu moi-même cette semaine. Je ne comprends pas pourquoi, effectivement, certains services de l'État nous retrouvent extrêmement facilement et d'autres pas. Et alors on avait abordé la question à un moment, je me souviens, dans un débat parlementaire, j'avais vu un amendement qui proposait de confier cette mission aux entreprises de déménagement. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, mais il faut trouver effectivement un moyen simple d'avoir la juste inscription sur les listes électorales. Encore une fois, travaillons sur tous ces points. Je pense que c'est essentiel, mais ça ne suffira pas. C'est une réponse vraiment globale que nous devons avoir. Il faut aussi s'interroger sur la question du vote obligatoire, sur la question du vote blanc. On sait que c'est des questions qui reviennent souvent dans le débat démocratique. Sur l'extension des horaires de vote, sur l'extension des lieux de vote, moi j'ai vu passer des propositions pour dire il faut pouvoir voter dans un laps de temps plus élargi ou sur son lieu de travail. Je crois qu'il y a vraiment une multitude de pistes à explorer et encore une fois, il faut les regarder dans leur globalité parce que d'une dépend l'autre et on ne peut pas bouger qu'un curseur. C'est la raison pour laquelle moi aujourd'hui, je suis plutôt réticente sur le vote par correspondance aux prochaines élections et que j'appelle à un débat beaucoup plus global sur ces questions-là.
Céline Braconnier.
Oui, il faudrait pas que la multiplicité des leviers possibles qui sont réels, puisque l'abstention elle est multifactorielle, conduise à toujours repousser des décisions qui n'arrivent jamais. On a une difficulté en démocratie qui est réelle, qui est que nos élus ont aussi, appréhendent, disons sans doute aussi, que l'on change les règles du jeu qui ont permis l'exercice du pouvoir. J'ai envie de dire que lorsqu'on dit voilà, il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas voter et qui pourraient le faire beaucoup plus facilement si on mettait en place le vote par correspondance, si on mettait en place l'inscription automatique. Évidemment, la question c'est quel type d'électeurs ça intégrerait dans le corps électoral effectif qui n'y sont pas aujourd'hui et avec quel effet sur les rapports de force politique. Et je pense qu'il n'est pas c'est pas un hasard si on regarde les nos élus, ceux qui sont porteurs des différentes propositions, que ce soit celle pour le vote par correspondance ou que ce soit celle de l'abaissement de l'âge électoral ou de l'inscription d'office sur les listes électorales, ces députés ou ces élus qui soutiennent ces évolutions nécessaires pour notre démocratie qui va mal, quand on a 60% d'abstention une municipale, ça ne va pas bien. Dans certains quartiers, on a voté à 20-25% aux élections municipales et aux élections législatives. Donc ça ne va pas bien. La démocratie représentative ne va pas bien. On ne pourra pas repousser trop longtemps au risque de la faire exploser ces mesures-là, mais on est face à une vraie difficulté parce que les élus qui soutiennent des réformes sont ceux qui sont soit dans l'opposition, soit au sein de la majorité assez minoritaire et porteurs de positions un peu non centrales. Voilà.
Faire réagir quand même Yael Braun-Pivet à ce que vous venez de dire, parce que voilà l'accusation finalement de politique politicienne en quelque sorte qui retiendrait le bras du législateur sur ces questions-là.
Non, oui, je trouve que c'est un faux procès. Vous savez, notre majorité est profondément renouvelée. Moi, je suis élue pour la première fois de ma vie et donc depuis 2017 seulement. Donc, il ne faut pas nous accuser de conservatisme électoral. Franchement, je trouve que c'est déplacé. Et je ne crois pas, encore une fois, que parce qu'on adoptera le vote par correspondance, on passera de 20 à 25% d'abstention à 80% de participation. C'est un leurre. Je pense que ça serait trop facile. Et finalement, j'aurais envie de vous dire, si c'était ça, moi je dirais banco. Et je ne le crois pas, malheureusement. Ça, c'est beaucoup trop simple. Et vous l'avez même vous-même développé. Vous avez indiqué qu'il y avait beaucoup de facteurs à l'abstention et que le vote par correspondance, s'il l'a faciliterait la participation, ne résoudrait pas tout. Donc moi, c'est le débat global que j'appelle et je crois que vous ne pouvez pas nous accuser de vouloir être conservateurs. Nous avons adopté d'ores et déjà des modalités de vote différentes et nous avions prévu dans notre programme présidentiel des changements profond dans nos institutions, que malheureusement nous n'avons pu réaliser, mais nous souhaitons plus de référendums, le non-cumul de mandats dans le temps, l'introduction d'une dose de proportionnelle, la baisse du nombre de parlementaires et tout un tas de réformes profondes de notre démocratie. Donc ne nous accusez pas d'immobilisme
ou de conservatisme
façon injuste. Non. Ou de conservatisme.
Alors Céline Braconnier, juste un mot, parce que
ça n'est pas une accusation telle quelle, c'est juste un constat que l'exercice du pouvoir tend à appréhender les changements des règles du jeu. C'est pas vous, c'était pareil lors des gouvernements précédents. C'est une appréhension qui est logique.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup. Rapidement. Pardon ?
Non, je disais, il y a aussi une contrainte de court terme avec la crise sanitaire qu'il faut gérer et qui est absolument réelle. Et il y a aussi des principes du service public, et notamment les principes de continuité du service public, d'adaptation du service public et d'égalité du service public qui plaident pour une adaptation des modalités de vote, notamment en période d'épidémie.
Ben voilà, vous aurez eu le mot de la fin, Romain Rambeau. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, Yael Braun-Pivet, et à vous, Céline Braconnier, d'avoir animé cette conversation qui était, faut bien le dire, un débat de bonne qualité. Je vous en remercie et je remercie également à la réalisation Vanessa Nadjar, à la prise de son Audrey Guélil. Merci à Sophie-Catherine Gallet pour sa collaboration. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin posera cette question. Les petits commerces sont-ils des biens publics? Avant cela, Émilie Aubry. Demain, l'esprit public en direct du Théâtre de la Vie posera deux questions. France, Covid, loi de sécurité globale, l'ère du soupçon et une question plus internationale. Pologne, Hongrie, l'Union européenne assume-t-elle ses valeurs?